les rois Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
18h30 en temps universel, le monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Dilidico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce jeudi 10 août, à l'issue du sommet à Abuja, les chefs d'État ordonnent l'activation immédiate de la force en attente de la CEDEAO.
Direct the committee of the chief of defense staff.
Ordonne au comité des chefs d'état-major des armées d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO avec tous ses éléments.
Oumar Touré, porte-parole de la commission de la CEDEAO. Le Mali et la France suspendent mutuellement la délivrance de visas aux ressortissants des deux pays. À Hawaï, le 50e État américain, des incendies ont fait plus de 30 morts et de nombreuses évacuations. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord le journal. La CEDEAO vient de finir son deuxième sommet à Abuja sur la crise au Niger. Les dirigeants ouest-africains ont ordonné l'activation immédiate de la force en attente de la CEDEAO, sans préciser la date de son déploiement. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Alors, après ce second sommet sur la situation politique au Niger, la principale information à retenir ce soir, c'est cette activation de la force en attente de la CEDEAO, alors ordonnée par les chefs d'État de la sous-région. La CEDEAO ordonne donc aux chefs militaires de la CEDEAO d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO pour une intervention militaire au Niger, comme cela avait été déjà pendu depuis le premier sommet pour une intervention militaire dans le pays. Même si d'autres critiquent cette décision. Alors, autre chose, ils ont aussi maintenu leur décision prise pendant le premier sommet, à savoir les sanctions contre la junte au pouvoir au Niger. Alors, pour cette décision prise aujourd'hui, la CEDEAO demande à l'Union africaine, aux Nations unies, de les assister à pouvoir atteindre cet objectif au Niger. Alors, quelque chose à préciser sur la question de l'intervention militaire au Niger. La CEDEAO précise que c'est bien une décision prise par les 15 États de la CEDEAO. Et donc, il ne s'agit pas d'une décision prise par un État ou un chef d'État. Cette clarification fait suite aux critiques, par exemple, auxquelles le président nigérien Bola Tinubu fait face ici dans le pays. Beaucoup de Nigériens considèrent qu'il est le principal initiateur pour une intervention militaire au Niger. Donc voici la principale information à retenir ce soir après ce second sommet sur le Niger.
VOA Afrique en direct de Washington.
La France et le Mali ont mutuellement suspendu la délivrance de visas aux ressortissants respectifs des deux pays. Cette décision intervient dans un contexte de vives tensions bilatérales et régionales. Les précisions de John Lyndon.
La France a, la première, suspendu en début de semaine la délivrance des visas après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge et donc formellement déconseillé aux voyageurs. Le ministère malien des Affaires étrangères a dit avoir appris avec surprise tard mercredi ce classement du Mali en zone rouge. Il a décidé de suspendre à son tour la délivrance des visas par les services maliens compétents à Paris en application de la réciprocité. Les services consulaires français à Bamako ont traité 22 000 demandes de visa l'an dernier et donné 12 000 réponses positives, indique une source diplomatique. Environ 7 000 Français vivent au Mali, dont 5 500 franco-maliens. Les relations entre la France et le Mali se sont fortement détériorées depuis 2020. La junte a poussé les forces françaises vers la sortie après 9 ans de présence au Mali et a expulsé l'ambassadeur français.
L'ex-rébellion Touareg du Mali a fait quitter Bamako à tous ses représentants, creusant encore davantage le fossé avec la junte au pouvoir qu'elle accuse d'agir contre l'accord de paix de 2015. Ataïe Ag Mohamed, chef de la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad à Bamako, dit être le dernier à avoir quitté la capitale aujourd'hui sur instruction de l'organisation. Un certain calme règne ce jeudi dans la région éthiopienne de l'Amhara, disent des habitants au lendemain de l'annonce de la libération de plusieurs grandes villes après plusieurs jours de combats entre l'armée fédérale et les milices locales. Le gouvernement éthiopien a imposé un couvre-feu dans les 6 villes libérées. Cette région du nord de l'Éthiopie a été placée vendredi dernier en état d'urgence en raison d'un regain de combat à peine 9 mois après la fin d'un conflit dévastateur dans la région voisine du Tigré. Au Kenya, un tribunal a prolongé ce jeudi la détention du pasteur autoproclamé Paul Ntenge Mackenzie, accusé d'avoir fait jeûner jusqu'à la mort les adeptes de sa secte évangélique dans une forêt du sud-est du pays. 425 corps ont été retrouvés lors de ce scandale baptisé « Massacre de Chakaola ». Cet ancien chauffeur de taxi de 50 ans est détenu depuis le 14 avril. Une fois les investigations terminées, Paul Ntenge Mackenzie sera formellement mis en accusation. Il fera notamment face à des poursuites pour terrorisme, ont annoncé en mai les procureurs. La Tunisie et la Libye annoncent un accord pour accueillir les migrants bloqués à la frontière. Environ 300 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont bloqués depuis un mois dans des conditions très précaires dans le désert où ils ont été abandonnés par la police tunisienne. Davantage avec Alexandrine Holognon.
Les deux pays se sont entendus pour se partager les groupes de migrants présents sur la frontière. La Tunisie va prendre en charge un groupe de 76 hommes, 42 femmes et 8 enfants. Le transfert du groupe a eu lieu hier dans des centres d'accueil à Tataouine et Medellin, avec la participation du Croissant Rouge tunisien. L'accord prévoit que les Libyens prendront en charge le reste des migrants, entre 150 et 200. Dans un nouveau communiqué ce jeudi, le ministère libyen a annoncé qu'il n'y avait plus aucun migrant irrégulier dans la zone frontalière. Jusqu'à 350 personnes ont été bloquées à Ras Jedir, dont 12 femmes et 65 enfants et mineurs, selon des sources humanitaires. Au moins 2000 ressortissants subsahariens ont été expulsés de Sfax, la seconde ville de Tunisie, et délaissés aux frontières libyennes et algériennes, après la mort le 3 juillet d'un Tunisien lors d'affrontements avec des migrants.
Le pape François a appelé ce jeudi à ne pas rester indifférent face aux tragédies des migrants qui meurent en traversant la Méditerranée au lendemain de l'annonce d'un énième naufrage qui a fait 41 disparus, dont 3 enfants. Plus de 1800 personnes, selon des chiffres des Nations Unies, ont déjà péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée, la route migratoire la plus meurtrière au monde, soit plus du double de l'an dernier.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 36 personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï, où 2 îles sont touchées par plusieurs incendies qui ont quasiment détruit une ville, provoqué des milliers d'évacuations et forcé certains habitants à se jeter à la mer pour échapper aux flammes. Mohamed Oumfa.
Alors que les efforts pour combattre les feux se poursuivent, 36 personnes décédées ont été découvertes pour le feu de l'Aina, toujours actif selon un communiqué des autorités du comté de Maui, l'île principalement touchée. Une grande partie de la ville touristique de l'Aina a été détruite et des centaines de familles ont été déplacées, a confirmé le gouverneur d'Hawaï, Josh Green. Des survols de la ville ont permis d'identifier plus de 271 structures endommagées, selon le comté de Maui. Le vent a fait tomber de nombreux poteaux électriques et les réseaux de communication sont coupés sur une partie de Maui. Cela complique grandement la tâche des secours, car même le service d'appel d'urgence 911 ne fonctionne pas dans certaines zones de l'île. Selon le site Power Outage, environ 13 000 foyers et commerces restaient sans électricité mercredi soir dans l'archipel. Le réseau hospitalier de l'île est dépassé par les patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée, d'après la vice-gouverneure Sylvia Luke. Le président américain Joe Biden a décrété ce jeudi l'état de catastrophe naturelle pour Hawaï, ce qui va permettre de débloquer d'importantes aides fédérales pour l'archipel. L'action du président met des fonds fédéraux à la disposition des personnes touchées dans le comté de Maui, a expliqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Ces aides permettront notamment de financer les secours d'urgence et les efforts de reconstruction sur l'île.
Et voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, le ministère des Finances a publié le rapport sur les dépenses publiques d'urgence du premier trimestre 2023 dans le cadre du programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI. Ces dépenses s'élèvent à 483,5 milliards de francs congolais contre 769 milliards au dernier trimestre 2022, soit une baisse de 59%. En République du Congo, les travaux du comité de pilotage du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale ont dressé à Brazzaville hier un premier bilan positif de la mise en œuvre du PDAC en matière d'accompagnement des entreprises agricoles. 1134 groupements et entreprises ont bénéficié de près de 16 milliards de francs CFA de subventions ces dernières années. Le projet va achever ses activités en décembre. Selon l'indice composite des cours des produits de base de la Banque des États de l'Afrique centrale, les prix des produits agricoles exportés par les pays de la CEMAC ont progressé de 8,3% en glissement annuel au second trimestre 2023. L'embellie est principalement due au sucre à plus de 24%, au cacao à plus de 12% et au café à plus de 6%. Le coton, le caoutchouc et l'huile de palme ont enregistré des baisses des cours, souligne la BEAC.
Place au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Dili.
Eric, on commence par le mondial féminin. Lauryn James est suspendue pour 2 matchs après sa faute sur une Nigériane.
L'attaquante britannique a été suspendue pour son mauvais geste contre la Nigériane Michelle Alozi lors du 8e de finale du mondial, a annoncé ce jeudi la FIFA dans un communiqué. La commission de discipline de la FIFA a imposé 2 matchs de suspension à Lauryn James, qui manquera le quart de finale des Anglaises samedi contre la Colombie à Sydney et potentiellement la demi-finale des Anglaises en cas de qualification des Lyonnaises. Elle ferait son retour en finale si l'Angleterre s'y qualifie.
En Espagne, Thibaut Courtois est blessé au ligament du genou gauche.
Le gardien belge du Real Madrid s'est blessé dans la matinée à l'entraînement. Thibaut Courtois est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à 2 jours de la reprise en championnat d'Espagne, a annoncé le club madrilène ce jeudi. Cette blessure est un coup dur pour le Real et l'international belge qui devra être opéré dans les prochains jours. Les Meringues ne précisent pas la durée d'indisponibilité de leur gardien phare de 31 ans, mais selon la presse espagnole, elle se verrait à plusieurs mois, entre 8 et 9, ce qui signifierait qu'il pourrait manquer la quasi-totalité de la saison. Le Real devrait compter sur le gardien ukrainien Andriy Lunin, 24 ans, pour le remplacer au moins pour la première journée de Liga sur la pelouse de l'Atlético Bilbao.
Football également, en France, on parle d'une saison plus ouverte que jamais.
Les soubresauts au PSG, avec la mise à l'écart de Kylian Mbappé, l'avenir flou de plusieurs cadres, aiguisent les appétits de ses rivaux, dont l'Olympique de Marseille, qui s'est offert un petit lifting et promette une saison de Ligue 1 très ouverte à partir de vendredi. L'été agité des champions de France a de quoi donner des idées à la concurrence si le changement d'entraîneur avec la nomination de Luis Enrique était attendu. Le bras de fer entre la direction et Mbappé a pris tout le monde par surprise et affaibli le club à l'heure de défendre son titre. Mbappé, qui s'entraîne désormais avec les éléments jugés indésirables, ne veut faire aucun cadeau. Bien décidé à partir libre dans un an, et le PSG est résolu à vendre dès cet été la tête d'affiche de son projet. Paris a ainsi été très actif durant le mercato avec 8 recrues, mêlant des espoirs à fort potentiel à des joueurs plus expérimentés. La purge au PSG pourrait avoir des conséquences au-delà de la capitale et ne sera pas neutre à l'heure du lancement en septembre de l'appel d'offres pour les droits audiovisuels de la Ligue 1. Que vaudra le championnat délesté de ses principales vedettes? C'est la question qui se pose, Dili.
Merci Eric.
Papa. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Dili Diko de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. La France et le Mali viennent mutuellement de suspendre la délivrance de visas à travers leurs services consulaires respectifs de Bamako et Paris. Au nom du principe dit de la réciprocité, les autorités de Bamako ont suspendu les visas aux ressortissants français jusqu'à nouvel ordre. Modibo Dembélé a joint par téléphone à Bamako Amadou Alpha Sissoko, analyste politique.
Forcément, l'impact va être désastreux. C'est une décision malencontreuse que souverainement les autorités françaises ont annoncé. Le Mali, par principe comme ça fait aux relations entre États, a joué un peu la réciprocité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va beaucoup impacter certaines catégories socio-professionnelles, les étudiants, les commerçants, les industriels, les hommes d'affaires qui font des va-et-vient entre ces deux pays-là et qui n'ont pas besoin ni de nationalité, ni de trucs, parce qu'ils n'ont pas de frais particuliers. Donc, ils prennent plutôt les visas. Et vous savez, l'impact psychologique de la décision est incommensurable, parce que ça donne un peu déjà, les relations entre les deux États étaient assez délétères, mais là, crescendo, les choses vont vers le pire.
La même décision a été prise également contre les ressortissants burkinabés. Quelle est votre réaction aussi par rapport?
C'est la même analyse et ça donne un très mauvais signal dans les relations entre la France et les États francophones d'Afrique. Parce que ça concerne le Niger, si vous voulez, le Burkina, le Mali. Ça dénote aussi d'une certaine ligne extrémiste qui s'installe un peu du côté de Paris et qui peut être beaucoup préjudiciable en termes de réciprocité. Parce que vous savez, nos États sont interdépendants. La relation est dans les deux. Et le commerce humain, aucun État aujourd'hui ne doit s'amuser à gêner le commerce humain, l'aller et le venir entre les populations. Parce que c'est de cela aussi que le business fonctionne, que les affaires fonctionnent.
Qu'est-ce qu'on doit faire alors pour essayer de baisser la tension?
La désescalade est une vraie nécessité. Elle est impérieuse aujourd'hui. Et moi, je pense personnellement que c'est du côté français qu'on doit revoir les copies. Essayer de tenir compte de l'évolution. L'Afrique de 2023 n'est pas égale à l'Afrique de 60. Un peu plus d'échanges et non une politique de va-t-en-guerre. En Afrique, ils veulent se réapproprier leur souveraineté. Donc à nos autorités aussi de savoir garder les canaux du dialogue, de l'écoute, pour échanger un peu avec les autorités françaises, pour que tous les canaux ne se brisent pas non plus.
Amadou Alpha Sissoko, analyste politique à Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Niger, des partisans des putschistes qui ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet ont agité des drapeaux russes lors de manifestations de soutien à la junte au pouvoir. Une bonne affaire pour certains tailleurs qui notent une explosion de la demande pour ces drapeaux sur fond de sentiments anti-français. Mourmadou Oumfa nous en dit plus.
Trois coupes de tissu de couleur blanche, bleu et rouge à assembler en bande horizontale. Le tailleur nigérien Yahaya Oumarou ne compte plus le nombre de drapeaux russes qu'il confectionne au quotidien, tant la demande est importante.
C'est un drapeau russe que je couds en ce moment. Ces derniers temps, des gens viennent dans mon atelier pour confectionner des drapeaux pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Le jour du rassemblement au stade national, par exemple, beaucoup de gens venaient coudre des drapeaux, surtout de Russie.
À Niamey, de nombreux commerçants et tailleurs confirment que les drapeaux russes sont très demandés depuis le coup d'état militaire ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Dedea Alassane, vendeur de tissus.
Depuis quelques jours, je vends beaucoup de tissus aux couleurs de la Russie. Des commerçants et des gens achètent ces tissus. Je ne peux pas estimer combien de tissus ont été vendus ces derniers temps, mais quand un produit est facile à acheter, il devient difficile de s'approvisionner. Avant cette période, ce n'est que lors des campagnes électorales que les tissus étaient si populaires.
Comme au Mali et au Burkina Faso, pays également dirigés par des putschistes, les drapeaux russes fleurissent désormais lors des manifestations de soutien aux militaires. Un message clair qu'entendent envoyer les manifestants. Dokacha Abdulaziz, manifestant pro-junte.
Je suis allé aux manifestations et j'étais avec un drapeau russe. J'aime la Russie parce que la plupart des pays africains sont avec les Russes. Je pense aussi qu'ils ont une solution.
Cette affection pour la Russie, disent certains experts, est en fait le reflet d'un sentiment anti-français qui n'a cessé de croître au Sahel et dans d'autres pays africains. Les autorités françaises, quant à elles, pensent qu'il s'agit d'une manipulation par la Russie qui, même si elle n'est pas à l'origine du coup d'État au Niger, pourrait en profiter pour conforter sa place sur le continent, notamment via la milice Wagner.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24. Au Soudan, divers quartiers sont sous l'emprise des forces de soutien rapide, avec des affrontements dans d'autres quartiers de Khartoum. Les habitants qui sont restés sur place font face à de nombreux défis pour assurer leur survie. Eric Manirakiza a joint Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste et résident dans la capitale soudanaise.
Je suis à Khartoum, dans le quartier Kalakla, au sud de Khartoum.
Mais ça faisait longtemps que vous ne pouviez plus communiquer. Que s'est-il passé?
Le problème, c'est qu'il y a des coupures d'électricité qui durent souvent une semaine ou 10 jours. Le courant est rétabli pour un ou deux jours et ça coupe encore. Nous avons 3 réseaux d'Internet dont un seul fonctionne et il est souvent très faible de débit. Alors, c'est difficile.
Et aujourd'hui, comment vous vivez dans cette capitale qui est frappée par des combats?
Difficilement. Et comme je viens de vous dire une fois, c'est grâce à une source de solidarité communautaire, on partage ce qui est là, mais c'est très peu. Les marchandises commencent à s'épuiser. Par exemple, les œufs sont disparus du marché. On passe 2-3 jours sans pain parce qu'il n'y a pas d'électricité pour les fours de pain. La viande est très rare. On dépend sur les lentilles. Et des légumes, des trucs fabriqués comme ça. Mais c'est, la situation de nourriture est très très grave. Je pense que dans 2 semaines ou 10 jours, il n'y aura plus à manger dans plusieurs quartiers de Khartoum.
Est-ce que vous vous rendez quelquefois dans un autre quartier? Est-ce que vous pouvez vous déplacer d'un quartier à l'autre?
En fait, le quartier Al-Kalakla, il y a 4 quartiers Al-Kalakla, on peut se déplacer dans ces quartiers. Il y a des gens qui s'aventurent pour aller dans d'autres quartiers comme Mayo, au sud de Khartoum, mais c'est très difficile. Il n'y a pas de transport en commun. Alors, pour aller dans un autre quartier, il faut louer soit un raksha, soit un taxi, soit un minibus privé. Mais il n'y avait plus de transport en commun.
Est-ce que vous pouvez trouver facilement de l'eau potable?
Quand il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Mais quand l'électricité coupe, il n'y a pas de... L'électricité coupe souvent. Par exemple, nous avons eu l'électricité. Le courant est rétabli aujourd'hui, suite à 10 jours de coupure. Alors, on ressort à des réservoirs. Par exemple, moi, j'ai un réservoir de 2 barils. Je le remplis, je le partage avec les voisins. Il est vidé hier, par exemple. Hier, j'ai failli aller à l'hôpital turc
il y a l'organisation Médecins Sans Frontières pour me procurer de l'eau potable. Alors, je suis en train de remplir mon réservoir d'eau de baril. Tous les voisins font comme ça. D'abord, l'eau qui est gardée commence à pourrir parce que, je ne sais pas, de l'eau pure. Et puis, ça s'épuise. Ça s'épuise dans 2-3 jours.
Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste et résident dans la capitale soudanaise. Au Togo, le prix du bol de maïs de 2,5 kg a flambé sur les marchés, à une période où les produits de la nouvelle récolte devraient faire baisser les prix. C'est le contraire qui est observé. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
Au marché de Bossimé à Lomé, le prix du bol de maïs atteint des records en cette période de l'année. D'habitude, il se négocie entre 450 francs et 500 francs CFA, mais actuellement, il y a une hausse d'environ 50%. Dame Yawa, revendeuse de la céréale, explique.
Le prix du maïs jaune ou blanc est de 850 francs. Cette hausse de prix ne dépend pas de nous. La saison n'a pas été bonne pour les agriculteurs. Les champs n'ont pas donné comme ils l'espéraient, alors qu'ils ont beaucoup investi. La rareté de la céréale a fait monter les prix en ce moment.
Emmanuel Sogadi, de la Ligue des consommateurs, qui a fait un tour dans les marchés de la capitale, soupçonne les grossistes de faire de la spéculation.
On se pose la question de savoir est-ce qu'il y a un phénomène qui a engendré l'augmentation des prix au niveau des grossistes ou bien si c'est une volonté de ces grossistes-là à pouvoir maximiser leurs bénéfices en attendant que la période d'abondance, les récoltes proprement dites n'arrivent, les bonnes dames qui vendent les produits céréaliers sur le marché. Elles nous ont dit qu'entre-temps c'est à 35 000 qu'elles achetaient le sac, mais aujourd'hui c'est à 50 000 qu'elles sont allées pour prendre le sac de 100 kg. Donc on comprend finalement que ce sont les grossistes-là qui ont décidé de faire ce qu'elles veulent.
Dame Nike, grossiste, se défend.
Si le prix du bol de maïs est cher en ce moment, ce n'est pas la faute des grossistes. Nous allons dans les champs, les paysans nous donnent leur prix et nous achetons le produit. Aujourd'hui, les agriculteurs ont aussi des charges comme l'achat des engrais, le météage et autres qui jouent sur les prix. Et puis, quand la saison n'est pas bonne, le peu qu'ils ont récolté, ils vont vouloir le vendre cher. Donc, ce n'est pas de notre faute.
Dame Nike fait savoir que si les grossistes devraient réellement répercuter les frais de transport et les différentes taxes municipales sur les prix du maïs, la céréale ne sera pas à la portée des consommateurs togolais. Emmanuel Sogadi, de la Ligue des consommateurs du Togo, en appelle aux autorités.
Nous connaissons la situation dans laquelle le Togo est aujourd'hui, la situation financière où la vie est chère, où l'argent ne circule pratiquement plus. Il faudrait qu'on puisse interpeller les autorités, le ministre en charge du commerce particulièrement, à initier des rencontres avec ces bonnes dames-là pour savoir quelle est la raison principale qui les pousse à faire cette augmentation.
Dans le sillage de la hausse des prix du maïs, on constate aussi que d'autres produits comme le haricot, l'huile, la farine du manioc, appelée gari, et les pâtes alimentaires suivent la tendance. Kossi Wousou, Lomé, pour VOA Afrique.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans cet engin super fast, super sonic, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref, les tout dans RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au +1 703 350 37 31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique, super rapide.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Dili Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.